La voix animale. Une émission de Karine Félix Faure, réalisée par Radiola.
Nous avons tous grandi avec les animaux, souvent à la maison, mais aussi dans les livres, à l'école, pendant nos balades dans la nature et dans notre imagination. Les animaux occupent une place essentielle dans nos vies, non seulement en tant que compagnons fidèles, mais aussi en tant que piliers de l'équilibre écologique. Comme le disait le naturaliste américain Henry Beston, les animaux sont d'autres peuples, pris avec nous dans le réseau de la vie. Saviez-vous que les technologies les plus avancées sont parfois, et même souvent, inspirées par des créatures vivant dans la nature depuis des millions d'années ? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du biomimétisme, où les animaux deviennent nos professeurs d'ingéniosité. Le mot biomimétisme vient de deux termes, bio, qui signifie vie, et mimétisme, qui signifie imiter. En d'autres termes, le biomimétisme désigne l'art d'imiter les mécanismes, structures ou processus naturels pour concevoir des technologies, des produits ou des systèmes plus efficaces, durables et respectueux de l'environnement. Pour commencer, laissez-moi vous raconter une histoire, celle d'un petit oiseau et d'un train qui allait changer la manière de voyager au Japon. Dans un archipel japonais, une équipe d'ingénieurs rêvait de concevoir un train capable de filer à toute vitesse pour relier les grandes villes du pays, un peu comme notre TGV, qu'au Japon on appelle le Shinkansen. Mais un problème de taille se dressait sur leur chemin. Chaque fois que le train entrait dans un tunnel, un énorme bang retentissait, causé par la pression de l'air. Un bruit si fort qu'il dérangeait les habitants proches des voies. Un jour, l'un des ingénieurs, passionné par la nature, se souvint d'un oiseau qu'il avait observé, le martin pêcheur. Un oiseau étonnant. Il vole à toute vitesse, plonge dans l'eau avec une précision incroyable et surtout sans jamais faire de bruit. Même quand il traverse des environnements étroits et sombres, il reste fluide et silencieux. Alors, une idée a germé. Et si le train s'inspirait du martin pêcheur ? L'équipe d'ingénieurs s'est alors penchée sur la forme de cet oiseau. Ils ont remarqué que son bec, long et effilé, fendait l'air et l'eau sans créer de turbulence. Résultat, l'avant du train Shinkansen a été entièrement repensé et redessiné en forme de bec de martin pêcheur. Une silhouette plus aérodynamique, plus fine et plus silencieuse. Le train pouvait désormais atteindre des vitesses incroyables tout en réduisant le bruit en entrant dans les tunnels. Une révolution dans l'histoire ferroviaire, grâce à un simple petit oiseau. Une belle preuve que la nature, quand on prend le temps de l'observer, peut être la meilleure des ingénieurs.
忘れたものを取りに帰るように振り返り思い出の誇りを払う戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いままきっともうこれ以上傷つくことなどありはしないと の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない、苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない、今でもあなたは闇であなたの背をなぞった、その輪郭を鮮明に覚えている、受け止めきれないものと出会うたび、溢れてやまないのは涙だけ、何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で、どこかであなたが今私と同じような涙に暮れ寂しさの中にいるなら、私のことなどどうか忘れてください、そんなこと心から願うほどに、今でもあなたは私の
Les animaux, dans leurs environnements naturels, ont su développer des comportements fascinants et des stratégies redoutablement efficaces pour survivre, s'adapter et maintenir un équilibre avec leur milieu. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces stratégies ont inspiré des innovations humaines dans des domaines aussi variés que l'aviation, l'architecture, la technologie ou même la gestion d'équipe. Allez, c'est parti pour un voyage au cœur du génie animal et de la créativité humaine. Saviez-vous que l'avion que vous prenez pour voyager a été inspiré par les oiseaux? Vous vous en doutiez peut-être. Eh oui, les frères Wright, pionniers d'aviation en Amérique, ont étudié la manière dont les oiseaux génèrent de la portance et gardent leur équilibre en plein vol. Le premier avion motorisé a vu le jour grâce à ces observations de la nature. Passons à un expert de l'escalade, le gecko. Ce petit reptile peut grimper au mur grâce à des millions de poils microscopiques sur ses pattes. Des chercheurs s'en sont inspirés pour créer des adhésifs révolutionnaires sans colle, très utilisés en robotique et en médecine. Direction l'Afrique, dans un nid de termites. Ces insectes bâtissent des structures capables de maintenir une température stable, qu'il fasse 40 degrés ou 10 degrés dehors. Leur secret ? Des canaux d'aération ultra efficaces. Une idée reprise par les architectes pour concevoir des bâtiments écologiques. Les abeilles, elles, sont reines de l'optimisation. Elles construisent des ruches en forme d'hexagone, une forme qui maximise l'espace tout en utilisant un minimum de cire. Cette stratégie inspire aujourd'hui la conception de structures légères et modulaires. Et que dire des loups? Dans une meute, chacun a un rôle précis. Leur travail d'équipe a servi de modèle à des méthodes modernes de gestion d'équipe et de leadership collaboratif. On continue avec les maîtres du sonar, les chauves-souris et les dauphins. Grâce à l'écholocation, ils peuvent se repérer dans l'obscurité et sous l'eau. C'est exactement ce qui a inspiré la technologie des sonars pour les sous-marins. Autre exemple, les branchies de poissons. Elles filtrent l'eau avec une efficacité redoutable, une base d'inspiration pour les systèmes de filtration d'eau modernes. Enfin, parlons matériaux. Les os creux des oiseaux, légers mais solides, ont donné naissance à des matériaux ultra performants pour l'aviation. Et les coquilles de coquillages, dures et résistantes, ont inspiré des structures dans l'automobile et l'espace. La nature est une immense bibliothèque d'innovation. Les animaux, à travers des millions d'années d'évolution, ont trouvé des solutions durables à des problèmes complexes. Le biomimétisme, c'est apprendre d'eux et construire un futur plus intelligent et plus respectueux de notre planète.
Que restera-t-il sur la Terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans. On mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps? Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Et pour rester un peu dans l'univers musical, écoutons quelques instruments dont la forme ou le son ont été inspirés par les animaux. Par exemple, le serpent. Cet instrument avant en bois, à la forme sinueuse et recouvert de cuir, tient son nom de sa ressemblance avec le reptile. Doté de trous comme une flûte, il était utilisé dès le XVIe siècle, notamment dans les fanfares militaires et la musique religieuse. La cornemuse, cet instrument à vent traditionnel, est reconnaissable grâce à son timbre puissant et nasillard, évoquant le bourdonnement persistant d'un essaim d'abeilles. Le rugissement de lion. Il s'agit d'un instrument de percussion conçu pour imiter le cri du roi de la jungle. Il était autrefois utilisé dans des scènes théâtrales évoquant la savane, le cirque ou la chasse. « Et finalement, la conque, inspirée de mollusques marins. Ce sont les instruments à vent les plus anciens de l'humanité. Ok, à tout de suite pour un peu d'histoire. N'a jamais entendu parler de la Joconde, ce célèbre portrait de jeune femme au sourire mystérieux exposé au Louvre à Paris, peint par Léonard de Vinci au XVIe siècle. Eh bien, ce Léonard de Vinci, homme universel, n'était pas seulement un grand peintre, il est souvent considéré comme l'un des pionniers du biomimétisme, bien avant que le terme lui-même n'existe. Il disait « Va prendre tes leçons dans la nature ». Il passait des heures à observer des oiseaux, les poissons, les plantes et les rivières, et il tenait des carnets de croquis très détaillés dans lesquels il analysait les mécanismes du vivant. L'un des exemples les plus célèbres est son étude du vol des oiseaux qui a fortement influencé ses tentatives de concevoir des machines volantes. Léonard avait compris que pour voler, il ne suffisait pas de battre des ailes, mais qu'il fallait aussi maîtriser l'équilibre, la portance et le vent. Il a aussi conçu des machines sous-marines en observant le corps des poissons, la forme des nageoires et le mouvement de l'eau. Dans ses études architecturales, Léonard s'inspire des coquilles, des squelettes ou des branches pour concevoir des structures solides et légères. En résumé, il comprenait que la nature est un ingénieur remarquable et que l'imitation de ses principes pouvait mener à des inventions plus performantes, plus harmonieuses et plus durables. Léonard de Vinci avait donc l'intuition. Mais à son époque, les connaissances en biologie et en matériaux étaient trop limitées pour que ces idées soient concrètement réalisables. Aujourd'hui, le biomimétisme est devenu un champ de recherche de pointe, au cœur des solutions pour un monde plus durable. Mais, à l'heure actuelle, avec tout le savoir, toute la technologie, toutes les découvertes que nous avons accumulées. Mettons-nous vraiment ce savoir au service d'un monde plus équilibré? Un monde où l'homme coexiste avec la nature, où l'innovation rime avec respect et où le progrès s'inspire de la sagesse du vivant? C'est une question qu'on doit se poser, ensemble. Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous sur la bonne voie?
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Natacha est une artiste peintre. Sa famille est originaire d'Égypte et d'Allemagne. Et elle a vécu dans plusieurs pays, notamment en Afrique et en Amérique. Il y a dans son approche artistique une place pour le folklore, la mythologie et l'ethnographie. La proximité avec le monde animal et plus largement avec la nature ne la quitte jamais. Et on la retrouve souvent dans son art. Voici ce qu'elle a répondu. Je commencerai par une sirandane, une devinette mauricienne. Qui la langkizame timanti? La langue des animaux. Quelle est la langue qui n'a jamais menti? La langue des animaux. Je n'aime pas les animaux, dit Natacha. Je les respecte. Tout simplement. Si je ne mange pas les animaux, c'est par cohérence. La compassion que j'éprouve pour tous les animaux est proportionnelle à celle que j'éprouve pour l'espèce humaine. Je suis antispéciste, c'est-à-dire que je considère qu'il n'y a aucune justification à discriminer un être en raison de l'espèce à laquelle il appartient. L'antispécisme n'est pas juste un cri de défense en faveur des animaux maltraités. Il est un combat social pour l'égalité qui présente la particularité de dépasser le simple cas des humains. Je trouve cette phrase de Gilles Deleuze à la fois profonde et juste. Tout homme qui souffre est un animal. Tout animal qui souffre est un homme. Je suis sensible à la conception de la création du monde des anciens Égyptiens. Toutes choses ont été façonnées sans hiérarchie définie. L'humain n'occupe pas un rang supérieur à celui des autres créatures. J'ai la conscience profonde de la nécessité d'une relation harmonieuse des règnes minéral, végétal, animal et humain. Cette philosophie est partagée par de nombreux peuples à travers le monde, principalement par les peuples premiers, les peuples autochtones. Mais elle est très éloignée des croyances monothéistes qui accordent une place centrale à l'homme. Et pourtant Montaigne nous avait prévenus. Il disait « Il n'y a pas de bête au monde tant à craindre à l'homme que l'homme ». Il y a une grande présence des animaux dans ma peinture. En fait, je me considère comme un animal qui regarde les animaux. Je les regarde à la façon de l'enfant. Je peins des signes de présence animale. Le signe de l'âne, le signe du poisson, le signe du chat. Et je dialogue avec eux, sur la toile comme dans la vie. Cette coprésence a des implications éthiques. L'article L214 du Code rural précise que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Cet article est sans cesse bafoué dans l'élevage industriel qui est une vraie malédiction. Il faudrait en finir avec ces pratiques barbares, rompre avec cette logique productiviste qui ne voit dans l'animal que du minerai, sans affect, sans émotion, sans intelligence. Je trouve tragique la façon dont sont traités les animaux d'élevage aujourd'hui, et avec eux, les humains qui travaillent à la chaîne dans les abattoirs. C'est une violence inouïe. Comment font-ils pour tenir le coup ? J'ai découvert, il y a quelques années, les actions menées par l'association L214 qui repose sur un principe moral élémentaire. Reconnaître la capacité des animaux à éprouver de la souffrance physique ou morale est notre responsabilité à diminuer ou supprimer cette souffrance. Cela coïncide avec la reconnaissance scientifique de l'impact désastreux de l'élevage intensif sur l'environnement. Pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger cette réflexion, Natacha conseille le livre de Jean-Baptiste Delameau, L214, Une voix pour les animaux, où l'on découvre également des informations sur l'éthologie des animaux d'élevage. Et voici que cette émission se termine. C'était La Voix Animale. J'espère que vous êtes autant impressionnés par l'ingéniosité du vivant et son importance pour notre évolution à nous que moi. Je vous laisse réfléchir à deux questions. Ok ? Si tu étais un inventeur, quel animal voudrais-tu imiter ? Deuxième question. Et si tu pouvais créer un objet magique qui copie la nature, ce serait quoi ? Merci Marin du Coédic pour la réalisation technique de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode.